Bonjour mes chers auditeurs. Je vais vous entretenir aujourd'hui du dîner du CRIF qui s'est déroulé la semaine dernière. Pourquoi parler de cet événement d'apparence mineure? Eh bien parce que c'est un véritable tribunal dînatoire. Ce mot est d'Alain Finkielkraut. Il définit très bien ce qu'est devenu le dîner du CRIF depuis 1985. Le CRIF lui-même, acronyme de Conseil National des Institutions Juives de France, a été fondé en 1943. Mais il n'a pris de l'importance qu'il a actuellement, qu'après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Le CRIF, et c'est là toute son ambiguïté, n'est pas un consistoire ou une institution religieuse. C'est une institution ethnico-politique à l'image d'Israël. Une représentation judéo-sioniste, mais qui a la prétention de parler au nom de tous les Juifs de France. En fait, c'est un lobby à l'imitation de l'EPAC, American Israel Public Affairs Committee, lobby judéo-sioniste clairement affiché, ce qui n'est pas le cas du CRIF. Or, on peut se demander, comme l'a écrit Esther Benbassa dans Libération, du 17 février 2010, si le CRIF n'est pas plutôt un porte-parole d'Israël en France, comme une seconde ambassade de ce pays, ce qui explique ses relations constantes avec la présidence de la République, les différents ministères, les préfectures, les mairies, conseils régionaux, etc., à qui il donne des ordres, pour ne pas dire des oukases. Un seul exemple. Lors du procès du gang des barbares, pour lequel nous n'avons aucune sympathie, le CRIF a commencé par lancer une campagne contre l'avocat général, coupable de ne pas avoir été assez dur dans son réquisitoire. Il fut accusé par Maître Spinner d'être un traître génétique. On se serait cru revenu au meilleur temps du nazisme et du bolchevisme. Ensuite, le CRIF exigea un deuxième procès, mais qui soit public, ce qui n'avait pas été le cas du premier, puisqu'il y avait des mineurs au moment des fêtes. Dès le lendemain du verdict, la garde des Sceaux ordonna que le parquet fût appel et la loi fut changée et s'appliqua rétroactivement pour répondre aux injonctions du CRIF. En effet, magistrats et députés se couchèrent immédiatement. C'est aussi lors d'un colloque de cette officine que Bernard-Henri Lévy a donné les raisons qui l'avaient poussé à prôner la guerre en Libye, guerre qui a fait plus de 100 000 morts et détruit un tiers du pays. « J'ai porté, dit-il, en étendard, ma fidélité à mon pays, au sionisme et à Israël. C'est donc au nom du sionisme et d'Israël que notre pays a été instrumentalisé pour commettre tous ces crimes. » Mais c'est lors de son dîner annuel que l'impudence de cet organisme atteint des sommets. Ce dîner réunit 1000 personnes parmi les décideurs politiques, économiques, religieux, syndicaux qui comptent le plus en France. Elles viennent faire toute honte due, allégeance à l'entité sioniste. Il y a le discours du président du CRIF, qui tense le président de la République ou le Premier ministre, et la réponse de celui-ci qui rappelle tout ce qu'il a fait pour le sionisme, mais qui s'excuse de ne pas en avoir fait assez. L'autre thème de ces discours tourne autour de l'antisémitisme. Jusqu'en l'an 2000, c'était l'extrême droite qui était accusée de tous les maux. La rue Copernic, Carpentras, c'était elle. Bien sûr, ces accusations se sont révélées sans fondement. Mais peu importe, calomnier, il en reste toujours quelque chose. Depuis la deuxième intifada, la haine du CRIF s'est portée sur les musulmans, surtout sur ceux des banlieues et sur les palestiniens. C'est ainsi que le CRIF n'hésite pas à importer en France le conflit israélo-palestinien en prenant systématiquement parti en faveur d'Israël et de son gouvernement, fût-il dirigé par des racistes les plus durs comme Netanyahou et Lieberman. Au moment de l'opération Plomb durci, décidé par les prétendus modérés qu'étaient Olmert et Tipi d'y venir, 2009, le CRIF a soutenu sans état d'âme les Israéliens, comme aujourd'hui il soutient les forcenés qui, à Tel Aviv, préparent une guerre contre l'Iran. Le CRIF et la soixantaine d'institutions qu'il regroupe, ainsi que ses filiales dans les régions, ont travaillé inlassablement aussi à détruire l'identité française en favorisant une immigration massive. Mais curieusement, ils défendent l'identité juive et se félicitent des murs qui entourent Israël. Tout leur est permis au nom de la Shoah, dont ils ont imposé la religion à l'Occident tétanisé afin de leur donner mauvaise conscience et de détruire leur défense immunitaire. Mais il faudrait leur rappeler qu'à la Shoah correspond la Nakba et qu'Auschwitz s'appelle aujourd'hui Gaza, que les prétendus droits de l'homme dont ils nous tympanisent sont violés chaque jour en Palestine et que c'est par millions que se comptent leurs victimes, par l'acquis américain interposé, bien sûr, en Irak, en Afghanistan, en Libye et dans tout le Proche-Orient. En conclusion, demandons-nous avec Hans Kling, comment est-il possible que cet organisme, qui représente tout au plus 100 000 personnes, soit 0,2% des Français, possède un tel pouvoir dans un pays qui prétend, je dis bien qui prétend, que tous ses citoyens sont égaux? Et comment se fait-il que ces 0,2% fassent trembler et qu'il ait ce qu'il est convenu d'appeler, sans doute par antithèse, les élites de ce malheureux pays qui courent comme des lâches se faire sermonner et insulter par une caméria sans scrupules? Au mois prochain, mes chers auditeurs. Au revoir.